toujours pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le gouvernement veut frapper fort contre la drogue et les trafiquants. On va s'intéresser à ce marché florissant, d'autant que plusieurs opérations place nette sont en cours dans toute la France. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, veut s'attaquer aux avoirs des trafiquants et, comme il dit, taper au portefeuille.
Dès que nous avons le repérage d'un trafiquant, qu'il soit en France ou à l'étranger, nous puissions envoyer instruction du ministère de l'Économie et des Finances pour geler l'intégralité des avoirs financiers de ce narcotrafiquant. Il faut taper au portefeuille, taper fortement, taper rapidement.
Voilà, le ministre de l'Économie. Et ça nous donne l'occasion de faire le point sur l'importance du trafic de drogue en France avec vous, Frédéric Ploquin. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1, spécialiste du grand banditisme, auteur notamment du livre « Les narcos français brisent l'omerta » chez Albin Michel. D'abord, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillent ou qui sont liées au trafic de drogue ?
Il existe des chiffres. Bon, par définition, l'économie de la drogue est relativement invisible. C'est-à-dire qu'en gros, ce ne sont pas des personnes qui payent des impôts, qui payent leur pas de porte, qui payent des taxes foncières, ni quoi que ce soit. Ils n'ont même pas de loyer pour leur magasin. Donc, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'indices qui permettent de chiffrer. Mais en gros, le chiffre le plus précis dont je dispose quant au nombre de personnes qui sont enrôlées dans cette économie de la drogue au niveau de l'Hexagone, au niveau de l'Hexagone, c'est autour de 250 000 personnes directement. Alors là-dedans, vous avez des gens, vous en avez qui gagnent très très bien leur vie, mais ils sont pas très nombreux. Et vous avez globalement quand même une main-d'œuvre qui gagne pas forcément, enfin qui gagne effectivement s'ils optent pour ce commerce-là, c'est qu'ils gagnent mieux leur vie qu'au SMIC ou à l'usine, mais néanmoins qui est pas forcément très bien payé. D'ailleurs, c'est le modèle économique même du trafic de stupes, c'est d'assez peu d'entretenir une forme de lumpen prolétariat qui est pas très bien payé, tandis que les caïds, eux, roulent dans des voitures de luxe au soleil de Dubaï.
Alors, Bruno Le Maire, devant la commission d'enquête du Sénat, disait tout à l'heure que le chiffre d'affaires du trafic de drogue s'élevait à au moins 3 milliards d'euros.
Alors moi, je pense qu'il est...
Il est en dessous de la vérité.
Je pense qu'il est légèrement en dessous de la vérité. Encore une fois, c'est pas, de la même manière, c'est très difficile à chiffrer.
Bien sûr.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une... Le trafic, l'économie de la drogue est une véritable machine à cash pour une raison simple, c'est que à la production, que ce soit au Maroc pour le cannabis ou en Colombie ou au Pérou pour la cocaïne, à la production, si vous voulez, un plan, ça coûte rien. Ça coûte un euro, quoi, en gros. Hein. Et au final, quand vous importez ce kilo de cocaïne qui, à la pousse, ne coûte strictement rien, vous pouvez le revendre 40, 50 000 euros, 60 000 euros en Europe. Alors, effectivement, il y a des frais sur le passage. Il faut payer des dockers, il faut soudoyer éventuellement dans les pays de départ et d'arrivée des douaniers, des policiers, pourquoi pas, etc. Je parle au moins pour ce qui est de la Colombie, de Pérou, et puis également pour avoir des portes d'entrée. Donc vous avez des frais sur le passage, mais néanmoins, ça dégage énormément d'argent. Et moi, les chiffres les plus fiables, enfin précis que j'ai, c'est plutôt une économie qui générerait à l'échelle de la France autour de 4 milliards par an, ce qui est quand même pas mal, mais qui est très loin du chiffrage qui est fait de l'économie de la drogue à l'échelle mondiale, qui tournerait autour de entre 500 et 600 milliards.
Mais c'est complètement
donc,
fou.
Oui, absolument. Mais si vous considérez qu'il y a en France à peu près 600 000 consommateurs réguliers de cocaïne, et qu'à côté de ça, les Français consomment, j'ai calculé, environ 40 tonnes de cannabis par mois, c'est-à-dire une tonne et demie par jour, déjà vous avez des éléments qui vous permettent de chiffrer 600 000 consommateurs réguliers de cocaïne, ça fait beaucoup d'argent.
Bruno Le Maire disait tout à l'heure cette phrase en parlant du narcotrafic. Nous ne sommes plus du tout face à des réseaux artisanaux. J'ai vu l'artisanat se transformer en grand banditisme. C'est évidemment ce que vous constatez aussi.
Bah, si vous voulez, il y a effectivement une forme de professionnalisation, mais il y a tout dans le trafic de stupéfiants. Vous avez des multinationales, vous avez des organisations criminelles mondialisées, et à la base, sur le terrain, vous avez une multitude de micro-PME. qui elle gère la distribution du produit. Donc là, il y a toujours, enfin, ça dépend de ce qu'on entend par artisanat, effectivement, mais il y a toujours une partie de, voilà, une partie de, d'improvisation, de choses comme ça. Mais globalement, cette économie s'est professionnalisée avec des gens qui appliquent un modèle économique qui est celui de la concurrence sauvage, du dumping généralisé, qui pratiquent la fidélisation de la clientèle. Et dans ce sens-là, ce sont plus tout à fait des petits artisans. Ce sont effectivement des individus qui en gros traitent avec les moyens de l'économie officielle réelle et qui simplement singent en gros le capitalisme et le libéralisme pour le pousser jusqu'à l'extrême.
On a beaucoup parlé évidemment des opérations place nette ces derniers jours. Selon vous, c'est de la com ou c'est réellement utile?
Moi, j'ai tendance à dire que c'est d'abord de la communication, mais il faut pas forcément voir quelque chose de péjoratif là-dedans. C'est-à-dire que en face de lui, l'État a des organisations criminelles qui communiquent à outrance sur leur force de frappe, sur les armes dont ils disposent, sur la qualité de leurs produits. Et je trouve, à titre personnel, que ce serait dommage que l'État ne se prive totalement de communiquer lui aussi, de montrer que lui aussi est capable peut-être à un moment donné d'inverser le rapport de force. Je ne sais pas si l'État y arrivera, mais toujours est-il que la communication fait partie de cette façon de tenter d'inverser le rapport de force, puisque les magistrats de Marseille, entendus récemment par une comité sénatoriale, ont précisé que le combat contre la drogue était, selon eux, de leur point de vue, asymétrique, mais au profit des trafiquants. Donc de la com, oui, mais en même temps, ça dérange. Ça dérange sur le terrain, ça dérange les consommateurs, ça dérange l'économie, les personnes qui travaillent sur le territoire qui est ciblé. Après, ça ne les dérangera pas très longtemps s'il n'y a pas des dossiers sérieux qui sont montés par la police judiciaire derrière avec des possibilités de distribuer des peines de prison dignes de ce nom. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ramasse... La rafle, entre guillemets, n'a jamais donné... grand chose au niveau de la justice. Après, vous envoyez 100, 200 personnes dans la justice, mais il n'y a pas de dossier solide, donc il n'y a pas de suivi. Donc, une semaine après, ils peuvent reprendre leur poste, en gros.
Et ce que disait tout à l'heure, on l'a entendu, Bruno Le Maire, taper au porte-monnaie, geler les avoirs des trafiquants, vous pensez que c'est une bonne idée?
C'est sur le papier, c'est évidemment une très bonne idée. En France, on n'est pas des grands spécialistes de ça. Après, parce qu'on manque justement, on manque cruellement de policiers spécialisés sur les questions économiques, sur la délinquance économique et financière. Il y en a de moins en moins, il y en a peu. C'est très spécialisé comme travail. Ils peuvent travailler, ils peuvent être épaulés évidemment par des agents de l'administration fiscale ou des douanes. Mais vous imaginez bien que il faudrait recruter des grands spécialistes pour arriver à démonter la machine à blanchir qu'on a face à nous et qui est multiple. Vous avez du petit blanchiment sur le terrain à la base dans des petites boutiques. À l'échelle au-dessus, vous avez un certain nombre d'établissements financiers qui absorbent une partie de la manne. Et puis au-delà de ça, vous avez une partie de l'argent qui est inatteignable puisque en fait, ils quittent aussitôt le territoire pour regagner soit les pays d'origine des trafiquants de stupéfiants et être investi. J'en ai rencontré un qui avait acheté une dizaine de pizzerias à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Non, mais c'est une fois que l'argent est là-bas ou un autre qui avait acheté 4 appartements de 100 mètres carrés à Dubaï. Donc une fois que c'est là-bas. Et puis qu'il y a un certain nombre d'écrans qui ont été mis. Je trouve que c'est très louable comme volonté, mais c'est relativement difficile à mettre en œuvre.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir été en direct sur Europe 1, spécialiste du grand banditisme. Je rappelle votre dernier ouvrage, 15 minutes pour sauver ma vie. C'est le livre du chauffeur de taxi qui a pris en charge le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. À tout de suite, on va parler des conséquences du changement climatique sur le vin.